parole tout de suite à Étienne hein, pour qu'il aborde les modalités diversifiées de la progression de l'espace, qui est son... C'est le dernier ou l'antépénultième ouvrage
Anté, et anté, parce qu'on en ressort, hein, je suis carte là.
D'accord.
Bon, alors ça s'appelle « La Terre de l'autre ». Je vous l'ai apporté pour que vous puissiez le regarder un petit peu. C'est la synthèse de 45 ans de recherche sur les politiques foncières, d'abord en Afrique, et ensuite j'ai élargi, puisque j'ai travaillé en état d'endroit du monde, en Australie, beaucoup au Canada. Donc là, je viens de participer à un très gros projet qui s'appelle « Peuples autochtones et gouvernance », où j'étais chargé de travailler sur la problématique des revendications territoriales des peuples autochtones. Et vous savez que sur le Grand Nord, c'est des réserves minières absolument extraordinaires. Et donc, on a réussi à démontrer qu'en fait, il y avait une grande partie des droits potentiels de ces sociétés qui étaient ignorés parce que on leur avait imposé une conception de l'espace et une conception du droit sur l'espace, la propriété privée, qui était étrangère à leur manière de penser leur rapport à la fois à l'espace et à la ressource. Et donc, on a réussi avec des anthropologues québécois, enfin canadiens plus généralement, mais surtout québécois, à montrer que, en fait, il y a une représentation d'espace qui avait été ignorée jusque-là, qui était en fait décrite empiriquement dans les récits des pères jésuites français du XVIIe siècle, qui avaient vécu avec des communautés indiennes et qui avaient décrit des choses qui étaient un peu incompréhensibles, disons, dans l'intelligibilité du 19e, 20e siècle, parce que, et c'est l'histoire que je vais vous raconter, en fait, à partir du 15e siècle, on a en Europe, pour des besoins qui vont être d'abord des besoins de domination et d'exploitation, puis qui vont aboutir au colonialisme, puis à la mondialisation contemporaine, hein, tout ça s'enchaîne. Donc on a imposé au reste du monde une représentation que toutes les sociétés connaissent, mais qu'elles ne valorisent pas, parce qu'elles n'en ont pas besoin de la valoriser, comme nous n'avons plus la valoriser. Donc voilà, c'est vous raconter cette histoire-là, c'est vous faire comprendre que, en fait, en travaillant sur ces problématiques d'espace, on comprend mieux comment on est passé d'un multi-interculturel un monoculturel. Et ce monoculturalisme, il est naturellement au cœur des grandes stratégies imposées par des organismes comme la Banque mondiale, hein, de généralisation de la propriété privée à l'ensemble du globe et à l'ensemble des acteurs pour réguler les rapports entre les individus. Et en face de ça, les sociétés sont en train de dire non, pas mal d'acteurs, hein, j'en ai un, hein, et c'est ce qu'on appelle la révolution des communs, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est génial ce qui est en train de se passer, mais il y a 6 mois, on n'en parlait pas, il y a 20 ans, c'était absolument impossible de pouvoir aborder ce type de questions. Je travaille sur cette question-là depuis 40 ans, je viens d'écrire dans un ouvrage en américain, un petit récit où j'explique comment pendant 30 ans j'ai travaillé sur les communs sans le savoir. Hein? Mais parce que c'était dans un type de perspective dans lequel on posait les problèmes des communautés, du communautarisme, pas des communs. Dans les visions toujours trop prédéterminés par des tas d'explications et de représentations qu'on a en tête et qui nous interdisent de regarder ce qu'il y a en face de nous, hein, eh bien, on va, si vous voulez, après cette présentation, revenir à ce que Stéphane va nous dire à propos de Saint-Vincent-de-Paul. Hein, et Saint-Vincent-de-Paul, je ne connais pas Saint-Vincent-de-Paul, mais on peut prendre cette pièce, le centre, le quartier, etc. Et on va retrouver, si vous voulez, des applications simplement On ne sait pas que ceci, cela, ces positions que vous adoptez ici, elles ont quelque chose de stratégique. En soi, elles déterminent un certain type de territoire et de territorialité. Mais il n'y a qu'un type de territoire auquel on pense, c'est celui de l'État. Parce que nous sommes, nous, Français, totalement surdéterminés par un culte de l'État. Donc, voilà, c'est... Quand on pense territoire, on pense État. Mais chacun d'entre nous construisons de multiples territorialités en utilisant parfois deux à trois en même temps, sans nous en rendre compte. Quand on commence à mieux comprendre, à mieux observer, tout d'un coup, on s'aperçoit que nous sommes tous riches d'une extraordinaire masse de connaissances et de potentialités que nous ne savons pas exploiter. Donc voilà, c'est un peu l'aventure de ce matin. Alors, moi je vais mettre quand même mes lunettes. Prolégomène, ça veut dire une introduction un peu ample. Cette question des représentations d'espace, elle est une question d'anthropologue, mais elle est aussi, et peut-être surtout, mais pas comme nous l'abordons, nous anthropologues, une question de géographe. Et elle est une question de géographe parce que c'est l'origine même de la discipline géographique qui va être ici questionnée. Géographie, c'est deux termes grecs qui sont accolés ensemble, geos, le globe terrestre, et graphos, graphein, la description d'écrire. Donc la géographie a pour objet de décrire le globe terrestre. Et la géographie, elle est apparue, pas comme ça, sortie toute armée de la cuisse de Jupiter, elle est sortie d'une expérience antérieure qu'on appelle la cosmographie. Cosmos, alors c'est encore plus large que Géos en grec, cosmos c'est l'univers. Et donc au départ, jusqu'au 15e siècle, il y a des savants, qui sont très souvent proches de l'astronomie, mais qui font, disons, de la description sur, qui n'est pas encore tout à fait de la cartographie, mais on a de très belles représentations d'espace. Je crois que j'en ai quelques-unes que j'ai mises dans le dossier, là, des représentations d'espace jusqu'au 14e siècle, qui sont pour nous extraordinairement naïves, mais en même temps extraordinairement parlantes par les types de lieux, les possibilités de déplacement. Enfin, il y a sur ces cartes déjà tout un ensemble d'informations qui renvoient à des représentations d'espace qui à l'époque sont tellement évidentes et habituelles. Comment aller de là à là, qu'est-ce qu'on fait là, à partir de là? Si c'est un marché, qu'est-ce qui se passe? Si c'est une église, qu'est-ce qui se passe, etc. Chacune de ces lieux a des fonctionnalités typiques. Et donc, les usagers connaissent tout ça. Et la carte permet de repérer et de se donner un certain nombre de significations particulières. Mais il va y avoir donc à partir du 15e siècle une révolution. Cette révolution, donc, c'est celle que les marins au long cours à Venise, à Lisbonne, parce que ce sont des Vénitiens, des marins vénitiens et des marins portugais qui décident de sortir d'une pratique qui était jusque-là familière à tous ceux qui pratiquaient le bassin méditerranéen, qui est un bassin relativement réduit et sur lequel la connaissance des particularités des différents rivages peut être relativement bien décrite et mémorisée. Donc, jusqu'au XVe siècle, on a utilisé ce qu'on appelle des portulans. Ce sont des descriptions d'itinéraires de port à port. Et l'Odyssée, dont je parle là, est en fait la mobilisation de deux ou trois portulans bien connus pour aller du nord au sud de la Méditerranée, de l'est à l'ouest, pour traverser dans telle et telle direction. Il y a comme ça des portulans qui sont transmis par la mémoire orale et parfois par la mémoire écrite, mais d'abord essentiellement par la mémoire orale. Et donc, à un moment donné, et ce sont là surtout des Portugais qui vont être obligés, qui vont être devant un défi, ils décident d'abord, après avoir longé la côte africaine, ils décident de partir dans l'autre direction, vers ce qui n'est pas encore l'Amérique, mais qui va le devenir. Et pour ce faire, il faut inventer des instruments de navigation. Et c'est l'invention, donc d'abord l'utilisation de la boussole de manière systématique, et ensuite la levée de position par rapport aux étoiles, qui va être le grand moment, le saut technologique extraordinaire, et qui va faire que, en l'espace d'une cinquantaine d'années, entre 1430 et 1480-1500, on invente la carte géographique, avec la possibilité donc de s'abstraire des circonstances d'observation des rivages, pour, en prenant position par rapport à des étoiles dont la fixité relative donne un certain nombre de possibilités de coordonnées, d'inscrire cette position sur un système relativement simple, qui est un système orthogonal, qui est imposé sur le globe terrestre. Donc, vous savez que pendant une partie du monde antique se posait la question, est-ce que le monde est plat ou est-ce qu'il est courbe, et progressivement l'idée de courbe s'est imposée. Les premiers voyages de circumnavigation vont seulement se réaliser au milieu du XVe siècle pour prouver l'ensemble de ces données. Et donc, la possibilité ensuite de se positionner par rapport à ce système orthogonal va permettre de définir les principes d'une trame orthogonale par rapport aux étoiles, puis par rapport aux lignes imaginaires en longitude et en latitude, en hauteur et en largeur, qui permettent de s'abstraire de l'environnement immédiat. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça va être à la base quelques inventions quand même qui vont avoir une portée. La première, c'est l'universalité. L'idée d'universalité, qui était jusque-là affichée d'une manière religieuse par les croyants, qui avaient, croyants qu'ils soient chrétiens ou musulmans, l'idée d'une conception universelle, mais là, on a avec la possibilité de partout utiliser les mêmes symboles, les mêmes cartes, pour se situer avec les mêmes références à une unité commune que sont les étoiles. Ça permet d'avoir déjà. Et il est très clair que à partir de ce moment-là, à l'idée d'universalité est associée l'idée d'unité, et que la construction politique qui va naître des siècles qui vont suivre, et en particulier de ce qu'on appelle la réforme du système westphalien, les traités de Westphalie qui mettent fin en 1648 à la guerre de 30 ans, imposent une nouvelle carte de l'Europe politique et un nouveau principe, qui est que jus religio et jus regio, c'est-à-dire les membres d'une société sont obligés d'adopter la religion de leur prince. Et donc, ceci va avoir des conséquences, ça va permettre à la fois de solder les conséquences de la guerre de 30 ans, les conséquences de la réforme. c'est autour de ça qu'a joué. Et puis d'organiser un système étatique qui repose sur trois éléments fondamentaux: un territoire, une population et un type de commandement, de gouvernance, on dirait maintenant. Et donc, grâce à la révolution de la carte géographique, l'idée de territoire et de territoire national va être en train de se développer. Autre conséquence, elle aussi absolument fondamentale, qui moi aussi m'interpelle, mais même a été au cœur de beaucoup de mes travaux, surtout récemment, c'est grâce à la carte, la possibilité de mesurer l'espace, les espaces, de leur donner une valeur, d'abord une valeur d'usage, puis une valeur d'échange, et à partir de ce moment-là, d'introduire ces territoires grâce à un échange qui devient généralisé à partir du XVIIIe siècle, de les introduire sur le marché. On invente la propriété foncière. La propriété foncière qui est à la base même du fonctionnement de nos économies jusqu'à une période très récente, mais même encore maintenant, et n'oublions pas que c'est une crise immobilière aux États-Unis en 2008 qui a posé la crise des subprimes et puis qui a par conséquence introduit l'ensemble des déstabilisations dans les systèmes d'échange économique à l'échelle mondiale. Donc, invention de la propriété privée, pas de manière absolument radicale, parce que un certain type de propriété privée était déjà connu en droit romain, mais en droit romain, ça ne s'appliquait que à certaines catégories de personnes et sous certaines conditions que j'explique dans mon bouquin. C'est très intéressant de faire à ce niveau-là l'histoire du droit romain pour comprendre, à l'inverse de ce qu'on dit, que le droit romain n'était pas du tout généralisé, il ne s'appliquait qu'à quelques catégories de patriciennes extrêmement supposées pouvoir bénéficier d'avantages tout à fait exceptionnels. Donc, ce qui est nouveau à partir du XIXe siècle, ça va être ce mouvement de marchandisation et de privatisation. Marchandisation, c'est-à-dire que des espaces considérés comme relevant d'usages particuliers deviennent des biens qui sont susceptibles d'être vendus, aliénés. Aliénés, ça vient d'alienus en latin, qui veut dire étranger, donc la capacité de rendre étranger à soi-même et à son groupe la terre des ancêtres. Possibilité de vendre les ancêtres, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis, cette idée aussi de privatisation, puisque en mettant en exergue l'État et le publicum, on introduit le deuxième terme de la pensée romaine, qui est le privatum, c'est-à-dire les intérêts privés, et donc cette privatisation va devenir un élément absolument fondamental et à partir de la fin du XVIIIe siècle, en France en particulier, le propriétaire foncier qui va être au cœur de tous les romans du XIXe siècle et va être donc là, présent. C'est lui en fait, autour de lui en tout cas, que va être faite la Révolution française de 1789. Alors, ce monopole de la représentation géométrique est donc... derrière tout ce mouvement, il y a une démarche qu'on appelle la démarche géométrique, qui vient toujours de Gégéos, le globe terrestre, et Métros, qui est la capacité de mesurer. Alors, nous, on a de la géométrie, ce qu'on a appris en... pas maternelle, parce que quand même c'est un peu plus tard, mais enfin au lycée en particulier. On oublie que derrière cet apprentissage des capacités de mesurer des formes, il y a une autre manière d'aborder le monde. Et ce qui est fondamental, qui est l'intérêt de ce que j'essaie de présenter maintenant, c'est que C'est l'extraordinaire efficacité du géométrisme a fait que l'on a oublié qu'il y avait d'autres représentations qui existaient et que l'on pratiquait sans le savoir, mais qui sont en train de réémerger, parfois d'une manière extraordinairement violente, et donc quelque chose que nous devons... Alors, cette réhabilitation contemporaine des anciennes représentations, on a commencé, nous, en tant qu'anthropologues du droit, dans mon laboratoire qui est au-dessus, hein, d'identifier leur récurrence sans avoir été d'ailleurs au bout de l'identification de l'ensemble de ces représentations. Dès le milieu des années 90, avec Marie-Pierre Jouan, tu te rappelles de Marie-Pierre, hein, Marie-Pierre est membre de notre regard, hein, et Marie-Pierre travaillait à Valence-le-Haut, donc les quartiers difficiles de la ville de Valence dans la Drôme, et nous avions repéré, alors on avait installé un petit observatoire pour le centre communal de prévention de la délinquance, et nous avions demandé, hein, de passer 6 mois avec des jeunes chercheurs qui observaient ce qui se passait, et on avait vu qu'il y avait des tas de choses passionnantes, mais à partir des porches, les circulations des jeunes de tel endroit à tel endroit, la manière de se construire des territorialités multiples, etc., tout cela donnait, en fait, je n'ai pas pu retrouver les restitutions de travaux, puis en fait, je n'ai pas vraiment pris le temps de pouvoir le faire, c'est un peu compliqué, mais bref. Dès 1995, on s'aperçoit qu'en France, à Valence-le-Haut, les jeunes savent qu'il y a un territoire communal, qu'il y a des quartiers, qu'il y a des organisations relevant de la géométrie, mais pratiquent en fait des choses totalement originales, puis pas si originales que ça en fait, hein, mais quand même, hein, originales. Et puis, parallèlement, on travaille en Afrique, moi d'abord aux Comores, puis à Madagascar, sur des réformes foncières qu'on est en train d'expérimenter et qui pensent la complexité des phénomènes et donc se refusent à généraliser la propriété privée tout en la reconnaissant pour valoriser d'autres modes de représentation. À l'époque, en 1994, moi je travaillais avec Elinor Ostrom à Paris, dans le cadre d'un séminaire, Elinor Ostrom, c'est la papesse des communs. Hein, si un jour vous voyez arriver comme ça Elinor Ostrom, c'est vraiment celle qui a, avec un prix Nobel d'économie en 2009, hein, qui a donc réhabilité dans les milieux anglo-saxons, parce qu'au départ, c'est les communs, c'est plus que des communs, hein, qui a réhabilité donc ce genre de travaux. Alors, dans cette perspective-là, à cette époque-là, entre 91 et 94-95, moi, avec Alain Bertrand, sur la base de travaux que nous faisons à Madagascar sur le foncier forestier, sur la grande façade, la grande falaise, hein, de Madagascar, nous faisons des travaux et nous décomposons ce que le droit de propriété civiliste appelle usus fructus abusus. Nous les décomposons selon des manières qui sont différentes en accès, prélèvement, gestion, exclusion et aliénation. Cinq phases, et 6 mois, 1 an après, nous tombons sur des travaux d'Elinor Ostrom, publiés en 92, qui proposent exactement le même type sur des bases avec des justifications différentes, mais tout à fait complémentaires. Et donc, on s'aperçoit que y a la possibilité de mieux entrer dans non seulement une description spécifique au droit foncier forestier malgache, mais de manière plus générale à la construction d'un cadre théorique qui soit beaucoup moins ethnocentrique, beaucoup plus proche de la multiplicité et de la complexité des situations que l'on peut observer sur le terrain. Et donc, ça va nous donner un certain nombre d'explications Il y a toute une partie de ce travail que je laisse tomber parce que je me renvoie à la présentation de la théorie des maîtrises foncières qui est un... Moi, je trouve ça... Pas mal de gens trouvent que c'est quand même assez passionnant parce que c'est une manière de réexpliquer, disons, la manière dans laquelle nos pratiques s'ajustent, s'enchaînent, parfois se contredisent, etc. Mais bon, derrière cette théorie, il y a des représentations d'espace. Et c'est surtout de ça que je vais parler. Peut-être qu'un jour, déjà, on n'est pas nombreux. Alors, si j'entrais dans la théorie des maîtrises foncières...
On peut recommander la lecture de ton livre.
On peut, oui. Mais, et puis peut-être qu'un jour, on pourra revenir là-dessus. Hein. Bon, simplement, il y a un petit tableau là que j'ai fait qui permet de comprendre que nous allons ici travailler sur la catégorie centrale, hein, représentation d'espace, que à partir de la gauche, vous avez un certain nombre de, j'appelais ça des activités, hein, ce sont des processus typiques dont on assure la décomposition. Ce que l'on affirme, et c'est un des premiers apports de Lina Ostrom, c'est que l'ensemble de ces activités se complètent comme les poupées russes, hein, elles s'inscrivent l'une dans l'autre. Hein. Mais on ne peut pas arriver à l'aliénation si on n'a pas démarré le processus au départ. Par contre, on peut toujours s'arrêter en cours de route. Et les sociétés africaines se sont arrêtées entre la gestion ou l'exclusion, ou parfois entre l'exclusion et l'aliénation. Hein. Mais dans les sociétés africaines, traditionnellement, l'aliénation impliquant l'exercice d'un droit de propriété privée généralisé était impossible, impensable, inacceptable.
Hein. Définir les termes là, d'activité, ce que tu entends par accès, prélèvement, gestion.
J'y arrive juste après.
Pour justement que ce soit plus clair pour tout le monde.
J'y arrive juste après. Ce que je voulais dire, c'est que la colonne de droite, hein, maîtrise privilégiée, je ne vais pas en parler, mais il est évident qu'il y a un continuum entre accès, invention du territoire et maîtrise minimale, etc. Et on peut comprendre ces maîtrises que si on a compris à quoi ça réfère auparavant. Donc je vais m'arrêter aux deux premières colonnes sur chacune d'entre elles, je vais dire quelques mots. Et pour... il y a cinq présentations. Puis après ça, il y aura cinq schémas qui permettront éventuellement de revenir sur ces questions. Hein. Alors, l'invention du territoire, donc, de manière très curieuse, c'est la représentation qui a émergé le plus tardivement dans l'ensemble de nos travaux, tellement c'était évident. C'était devant nous, donc on ne voyait pas. Hein. On regarde toujours le plus loin, mais là, on ne regarde pas. Hein. Et donc, et ça, c'est extrêmement important pour des chercheurs que de critiquer, de se donner la capacité de critiquer ces a priori et la construction de ces schémas de pensée, ces pratiques scientifiques. Donc, c'est en travaillant avec ce programme PAG, Peuple Autochtone et Gouvernance, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on s'est aperçu que dans nos raisonnements, il y avait véritablement un problème qui était celui de l'invention du territoire, comme on parle de l'invention de la propriété, il faut aussi parler de l'invention du territoire. Et donc, on le retrouvera tout à l'heure, le territoire, c'est... Donc, une partie de l'étendue sur laquelle s'exerce une autorité en fonction d'un certain nombre d'utilités. Mais pour être le plus large possible. Hein, une autorité qui peut être la vôtre. Hein, une utilité qui peut être simplement une unité extrêmement prosaïque, la possibilité de passer, simplement. Hein, mais, donc, le territoire, c'est ce à quoi on accède lorsque l'on a décidé que cette portion de l'étendue allait répondre à un usage ou une utilité, et que l'on ait soi-même, de manière décisoire, exercé son autorité sur cet aspect. Alors, cette autorité, elle peut être exclusive et absolue, hein, on y arrive parfois, hein, mais le plus souvent, c'est ouais, une autorité partagée, partagée parfois jusqu'à l'échelle de l'humanité, quand on évoque ces catégories qui ne me plaisent pas trop de biens publics mondiaux, hein, mais bon, on est là en face hein, de choses qui sont... alors, ce qui est intéressant, donc, de toute façon, hein, et là, c'est pour Stéphane que j'ai un petit clin d'œil, hein, c'est pas simplement identifier les territoires, mais les interstices entre les territoires. Parce que c'est vraiment là où, très souvent, hein, c'est là où se passent les choses les plus intéressantes. C'est-à-dire des territoires potentiels ou des territoires qui ne sont pas nommés, mais qui, en fait, fonctionnent aussi avec des effets de territorialité.
J'en présenterai une certaine vision empirique après.
Voilà, bon, mais on ne l'avait pas prévu, hein, en tout cas. Hein. Alors, l'odologie c'est, pour moi, ça a été vraiment... c'était là aussi quelque chose de très long à identifier, et pourtant c'était là aussi devant moi. J'ai commencé à travailler là-dessus dès début des années 70, lorsque j'étais au Congo, je travaillais dans le Nyari, un ensemble montagneux dans le sud du Congo, avec des populations pygmées, et je travaillais avec les pygmées pour essayer de comprendre quels étaient leur rapport à l'espace. J'ai bien compris qu'il n'est pas question d'exercice de droit de propriété, mais je voyais bien qu'il y avait des phénomènes très, très continus de transport, hein, selon des pistes, selon des tas de choses comme ça, mais l'idée d'odologie, disons, n'était pas encore là. Puis après ça, j'ai travaillé dans les années 80 au Mali avec les populations Touareg, Peul, des pasteurs itinérants. Et là aussi, je m'a fait des descriptions. Et puis, ce n'est que lentement que je suis arrivé à cette idée qu'il y a une représentation originale. Donc, odologie, c'est une création hein, de ma modeste, modeste apport. Hein. Odos, la route, logos, le savoir, la connaissance. Hein. C'est la science des cheminements qui est à la base des portulans dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est aussi... c'est à la base de ces itinéraires de pèlerinage qui ont eu durant tout le Moyen-Âge et qui continuent à avoir maintenant une importance extraordinaire. Alors, j'évoque Compostelle, j'évoque Jérusalem et la Mecque, bien entendu, hein, parce que, sur ce que moi j'en sais, quand j'interroge encore des pieux musulmans en Afrique, au Mali en particulier, ils me racontent leur voyage à la Mecque. C'est héroïque, quoi, hein, c'est la grande chose. Puis, j'évoque aussi le guide du routard, etc., etc. Hein, c'est-à-dire, cette odologie, elle est en fait la manière selon laquelle chaque jour nous faisons métro, boulot, dodo. Hein, donc, nous employons un certain nombre de conséquences pour aller d'un lieu à un autre. Et sur ce lieu, nous avons la possibilité d'exploiter un certain nombre de ressources. Alors, peut-être que vous achetez votre journal ici à Paris, votre baguette de pain, votre etc. Hein, les chasseurs-collecteurs, ils vont chercher ceci, mais hein, que ce soit les bororo décrits par les Strauss dans Triste Tropique, etc. Hein, chaque type hein, de voyageurs, de ceux qui se déplacent, hein, ont comme ça la possibilité d'accéder à des ressources. Et ce qui est la spécificité hein, de ce type de maîtrise, c'est qu'on accède à des droits sur le sol par le droit sur les ressources. Ce sont les ressources, l'eau, etc., qui permettent d'accéder à un droit sur le front. Donc, d'une certaine façon, les juristes très bloqué dirait il n'y a pas de droit foncier parce que le fundum, le foncier, hein, n'est que de manière indirecte appréhendé par. Alors, le topocentrisme, c'est en fait l'expérience la plus générale des peuples agriculteurs africains. Hein, topos, c'est l'espace de terrain, c'est le lieu, hein, et kentron, donc le point central d'une circonférence. C'est donc l'exercice d'une autorité sur un espace à partir d'un point désigné ayant sa propre fonctionnalité. Hein, et ce ne sont pas des fonctionnalités multiples, ou si elles sont nombreuses, à chaque fois elles peuvent être identifiées d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que par exemple dans un village africain, le lieu où on fait certains types de sacrifices est différent du lieu et donc détermine un type de territorialité qui peut être différent du lieu où on fait des initiations, du lieu où on va extraire l'eau, du lieu d'où, etc. Donc à chaque fois il peut y avoir une pluralité de représentation d'espace. Hein. Et dans les villages africains où j'ai commencé à travailler en 69, j'identifiais presque toujours une dizaine de représentations infeuilletées, superposées comme ça. Et à chaque fois que les fonctionnalités sont différentes, elles sont piles. Lorsqu'elles sont de même nature, elles s'ajustent et deviennent concurrentes. Hein, et donc on arrive comme ça à définir une belle connaissance de l'ensemble de ces questions. La hiéromanie, c'est en fait ce que l'on appelle plus généralement la sanctuarisation des espaces. Chez nous, c'est pas très 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 important. Si, il y a des tas d'espaces qui sont interdits, hein, qui sont réservés par les militaires, par des gens, etc.
Les cimetières.
Le cimetière, oui. C'est, hieros veut dire le sacré, l'interdit, et nomos, la règle. Là aussi, j'ai eu du mal à identifier ça. Il a fallu en 1999 que j'aille travailler dans une réserve forestière qui est le Niokolokoba au Sénégal, pour que je m'aperçoive que cette réserve de biosphère avait impliqué l'expulsion de toutes les populations. Et, on était là dans des régimes d'interdiction et d'expulsion. Enfin, la géométrie dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, l'étymologie je vous l'ai donnée, la geometria en grec ça veut dire l'arpentage, et donc la technique de mesure. Cette technique-là, elle a permis de mesurer des valeurs au départ sans doute symboliques. Symbolos, c'est ce qu'on partage. Partager un espace, et puis ensuite des valeurs d'usage qui sont venues des valeurs d'échange, qui sont devenues des valeurs monétaires et qui sont à la base de la propriété privée. Bon, donc ceci, on l'avait identifié dès 1995, et ce n'est que vers 2005-2006 qu'on a commencé à en faire une présentation systématique. Alors, une petite idée de ces représentations, j'ai quasiment terminé, pour vous donner une petite idée. La construction du territoire, donc notre idée, c'est que l'on passe d'une succession d'approximations d'espaces perçus à des espaces qui sont des espaces conçus, des espaces perçus à des espaces conçus, et donc notre travail d'identification des territoires est extrêmement arbitraire, très fortement déterminé, non seulement par les grands référents culturels, qui sont la place, par exemple, du territoire étatique ou des choses comme ça, mais aussi par des tas d'habitudes et des tas de pratiques au quotidien, qui permettent donc de définir, dans un deuxième temps, c'est le territoire comme un peu l'alpha et l'oméga des formes de socialisation. C'est de là dont on part lorsque homme, on prend place hein, dans le collectif. C'est intéressant de voir la manière sur laquelle les tout jeunes enfants apprennent hein, à se construire dans l'étendue indéfinie leur propre position, leur corporalité par rapport à des obstacles, des événements, des tas de choses comme cela. Donc progressivement se construisent des représentations du territoire et d'une façon ou d'une autre, on revient toujours à des problèmes de territorialité dans tous les... Et les problèmes avec les crises de Moyen-Orient, là, on le voit d'une manière qui est sauvagement radicale. Alors, la représentation idéologique, hein, vous voyez que là, on doit aller de A à B en passant par C. On a même introduit un problème de frontière pour compliquer un tout petit peu les choses. Et vous avez, en fait, le long de cet itinéraire, une zone... Hein, qui est la zone à partir de laquelle on peut ponctionner des ressources, hein, qui peuvent être en eau, qui peuvent être en nourriture, en baie, enfin, tout un ensemble de choses, avec éventuellement, en tiret, je ne sais pas si vous pouvez voir, oui, hein, un certain nombre des itinéraires de substitution qui permettent de répondre à peu près aux mêmes endroits. Et puis aussi, au sud, en rouge, en bas, pardon, hein, en rouge, hein, des impossibilités, c'est-à-dire qu'il y a des itinéraires qui sont reconnus et d'autres qui sont interdits. L'exemple donc de représentation topocentrique, c'est pas facile hein, de représenter des feuilletés parce qu'il faudrait des possibilités qui en tout cas ne sont pas les miennes en matière de mobilisation des ressources
graphiques.
Graphique, oui. Donc bon, on a fait quelque chose qui est quand même déjà relativement intéressant et qui permet d'identifier à la fois plusieurs fonctionnalités qui peuvent se superposer et lorsque deux fonctionnalités sont identiques, à ce moment-là, c'est le problème de la ligne frontière hein, qui devient à ce moment-là hein, le problème d'enjeu complètement nouveau. La sanctuarisation, donc... exclusion hein, de l'ensemble des acteurs et puis un exemple de cadastre très simplifié où en fait l'ensemble des formules d'occupation de l'espace sont ramenées à des formes géométriques et à ces formes géométriques il y a des principes de base que vous apprenez un peu à l'école primaire hein, pour calculer la surface d'un triangle, d'un losange, etc. Et donc, à partir de cela, c'est l'invention de la propriété qui va être l'enjeu de l'ensemble de nos représentations. Donc, c'est ça qui s'est généralisé au point d'avoir effacé tout le reste. Voilà, je crois que j'ai terminé. Oui, les conclusions n'ont aucun intérêt. Faites votre cuisine au gaz, c'est à peu près ce que j'ai failli écrire. non, c'est enfin, je ne savais plus très bien ce que je pouvais vous dire en plus, quoi. Mais bon, voilà. Si vous voulez, hein, si on peut revenir sur l'une ou l'autre des figures, si j'étais un petit peu rapide. Mais bon, je crois que ce qui est intéressant, c'est de passer à de la théorie à l'application, enfin pas de la théorie vraiment, mais hein, d'un cadre un peu systématique à l'idée que en fait, à partir de Saint-Paul, à partir de, on est naturellement dans ces cinq représentations d'espace, mais on ne le sait pas.
Moi, ce que je voudrais rebondir, c'est je lisais récemment un ouvrage très intéressant sur les voies romaines. Il y avait des cartes romaines aussi. Des cartes romaines qui n'avaient absolument rien à voir avec la configuration géographique, oui. Mais qui étaient juste des itinéraires linéaires et qui permettaient d'aller directement de Rome à Cherbourg, mais en faisant des grands détours, mais qui étaient figurés simplement, on passe par telle et telle et telle ville. Si on met ça sur notre carte géographique actuelle, c'est extrêmement compliqué comme itinéraire et très sinueux, mais il le représentait de façon parfaitement linéaire. Car l'intérêt n'était pas d'en traduire la géométrie réelle, ouais. Mais voilà, bon, c'est ça.
J'ai amené ça. Ouais. Elle n'est pas romaine, elle est voilà, du 13e, 14e. C'est ça, hein, ouais. Bon, mais c'est, justement, c'est.
Oui, tout à fait. Bon, il y a tout un. Il y a eu une exposition à la BNF il y a 2-3 ans sur les cartes marines. Qui a fait l'objet d'un très beau catalogue.
Oui.
Et donc on voit ce genre de choses. Moi je voulais te poser une question.
Et il y avait très récemment, j'avais été présenté.
Ah non, on peut rien comprendre. Géographiquement, on n'est pas habitué à ça. Oui.
C'est parce qu'on ne possède pas la connaissance des modes d'identification des lieux, et etc.
Oui. En fait, il faut lire ça comme une feuille de route, et pas comme une carte.
Oui.
Ce n'est pas une projection en deux dimensions d'un espace en trois dimensions, mais c'est une feuille de route. C'est comme la ligne de bus que tu as, qui est linéaire. Sur le...
Ah oui, c'est ça, alors qu'elle n'est pas du tout.
Alors qu'elle n'est pas du tout linéaire.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Vous voulez notre secours.
Tout à fait.
Hein, la Publica au Portugal.
Avec des ouvrages d'art, quelquefois. Un tunnel de 200 mètres de long. Hein. Alors moi, je voulais te poser une question. C'est que tu parles donc au XVIIIe siècle de cette révolution capitaliste de la marchandisation du territoire. Est-ce que ce n'est pas une forme plus égalitaire de répartition de l'espace que celle qui était antérieure, c'est-à-dire héréditaire?
Bien entendu. La modernité a des tas d'avantages. Le problème, ce n'est pas de penser maintenant, à un moment, on a cru pouvoir le faire, en termes de substitution ou d'alternative. C'est qu'à un moment donné, cette réforme, qui est en fait, oui, une révolution, à la fin du XVIIIe siècle, a permis une redistribution absolument totale des capacités de mise en exploitation des ressources foncières. Et donc, la reconnaissance au profit des anciens tenanciers de nouveaux droits qui vont être des droits de propriété, qui vont être, à partir de donc, 1793, inscrit dans la loi et puis consacré par le Code civil, ça c'est vraiment une révolution extraordinaire. Sauf que finalement on a été trop loin. On a été pris au jeu de la généralisation d'un phénomène et maintenant on se trouve en face de quelque chose qu'on n'arrive plus à maîtriser, qui s'emballe complètement devant nous. Et donc je pense que ben, quand on lit, ce matin je recevais un texte d'un commoneur, d'un type qui travaille sur les communs et qui expliquait que c'est une façon de réintroduire plus de compréhension de ce qui se passe réellement dans la société, de sortir d'une abstraction de la propriété privée pour rentrer dans la concrétude de l'ensemble des pratiques des acteurs. C'est ça que si je veux. Mais ça va être pas évident à faire accepter l'idée qu'il faut entrer dans la complexité. La tendance la plus immédiate pour la plupart des gens, qui sont tous marqués par l'idée unitaire, c'est d'avoir des explications les plus simples possibles face à ce qui leur apparaît comme des complications. Mais en réalité, on ne peut pas renoncer à l'idée qu'il va nous falloir, nous en particulier, si on veut aller assumer notre fonction d'interculturel, il faut penser la complexité, et cette complexité, dans le domaine des représentations d'espace, c'est naturellement le jeu de ces cinq représentations. Alors, certaines sont plus valorisées dans certains types de sociétés que d'autres, à certains moments, etc.
Mon cher, ce qui se passe au niveau du sujet,
oui.
C'est quand même une interrogation top. Parce que là, toi, évidemment, avec une autorité, tu observes ce qui se passe sur la faut la citer, disons. Que se passe-t-il dans le vécu ou dans l'intention du sujet ?
Écoute, pour une bonne partie d'entre nous, mais je suppose pour des gens comme toi qui sont des pseudo-migrants, qui sont des migrants tellement racinés dans notre culture que parfois on vous a conduit à oublier un certain nombre de représentations typiques au cœur de vos cultures maternelles ou natives, etc. Que tout d'un coup vous pouvez vous sentir réenrichi par cette redécouverte. Moi je le vois avec beaucoup de jeunes chercheurs africains qui tout d'un coup se disent « Mais bien sûr ça, ma grand-mère m'en parlait, ça, je l'ai vu faire dans mon village, etc. » Hein, et donc là il y a une capacité de s'enrichir à nouveau. Mais en même temps, avec ce petit risque de se réenchanter, de le réenchantement qui devient quelque chose, un départ dans l'imaginaire, et puis...
C'est pas nécessairement un réenchantement. C'est la capacité très secrète de passer du savoir classique, comme ça, sur le monde de l'université, au minuscule premier degré, de la ma'arifa, la connaissance. Et les Arabes, de ce point de vue-là, moi je suis souvent, je suis vraiment étonné, de cette espèce de patrimoine phylogénétique qu'ils portent et qui est indéracinable. Et d'où d'ailleurs l'entendu actuel de ce qui se passe dans le monde arabe et autres. Et je viens ici, je dois t'écouter avec beaucoup d'attention. J'écoutais les apéros ou les autres. Comment le transmettre ? C'est souvent c'est ça qui n'est pas facile. C'est-à-dire la perception du réel.
Oui. Et peut-être le fait que nous en savons si peu. Que nous sommes.
Ça, c'est un verset coranique.
Que nous devons faire l'effort de l'ouverture à la porte de la connaissance.
Du djihad. La connaissance, c'est à un certain degré le chemin auquel la vie entière est consacrée. On ne peut plus parler de croyance.
Mais je pense que mon intervention va en partie répondre à ça, puisque c'est comment l'enfant des rues investit l'espace et l'engendre par ce fait-là. Et donc, quel type de connaissances on peut en tirer au-delà de cette théorisation des cinq modes d'appropriation et d'usage.
Bien sûr. Ça permet de travailler. Tu utilisais la...